Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le dernier voyage de la reine. Le cercueil d'Elisabeth II a été accompagné par la famille royale jusqu'à Westminster Hall où les Britanniques lui rendent hommage. Évidemment, tout le faste de la monarchie anglaise dans ces cérémonies. On part à Londres dans un instant rejoindre nos envoyés spéciaux Florian Tardif, Vincent Fahandez et Stéphane Place pour Europe 1. En France, l'électricité et le gaz vont augmenter de 15% à partir de l'année prochaine, 2023, annonce la première ministre Elisabeth Borne. Une hausse limitée selon le gouvernement qui va envoyer des chèques énergie de 100 à 200 euros à 12 millions de Français. Comment les Français vont-ils encaisser le choc? On en débat dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La dépouille de la reine Elisabeth II est donc arrivée à Westminster Hall. Elle sera exposée au public jusqu'à lundi matin 5h30. Son cercueil est arrivé depuis le palais de Buckingham au terme d'une émouvante procession suivie par ses enfants et ses petits-enfants devant des milliers de personnes massées le long du parcours. Écoutez l'émotion de certaines d'entre elles.
Ça signifie tellement de pouvoir lui dire au revoir. Voir mes petits-enfants la rencontrer, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais.
On ne s'attendait pas au décès de la reine. On pensait qu'elle était invincible. On n'a jamais imaginé qu'elle partirait.
J'ai vu le décès de la reine littéralement de mes yeux. C'était tellement triste.
Alors, on va parler maintenant des annonces d'Elisabeth Borne. Les hausses des prix de l'énergie seront limitées à 15% en janvier et février 2023, soit une augmentation de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, de 20 euros pour ceux qui se chauffent à l'électricité. Des chèques énergie de 100 ou 200 euros seront aussi versés d'ici la fin de l'année aux plus modestes. Un bouclier tarifaire qui coûtera 16 milliards d'euros à l'État. On écoute Elisabeth Borne.
Dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure. Nous n'aurions alors pas besoin d'activer le dispositif de rationnement pour les entreprises qui consomment beaucoup de gaz. Le second enseignement, c'est que seule la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les cas de figure les plus pessimistes, comme un hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d'approvisionnement.
Et puis dans l'actualité, il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle à l'ordre la France. Elle reproche aux autorités de ne pas avoir étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement des familles de djihadistes en Syrie. La Cour avait été saisie par deux couples de Français. Ils avaient demandé aux autorités le rapatriement de leurs filles, compagnes de djihadistes et de trois de leurs enfants. Parmi ces familles rapatriées, on a appris que la veuve de Sami Amimour, l'un des trois assaillants du Bataclan en novembre 2015, étaient parmi celles qui ont été rapatriées dès le 15 juillet. On y revient dans un instant dans nos débats. Et puis l'incendie en Gironde progresse encore. Le feu a parcouru près de 3600 hectares au sud de Lacanau. 1000 pompiers sont mobilisés, 1340 personnes ont dû être évacuées en urgence. Une enquête judiciaire a été ouverte sur l'origine de l'incendie. Selon le parquet de Bordeaux, la thèse criminelle est malheureusement privilégiée. Voilà, on se retrouve sur le plateau de Punchline. Nous sommes avec Vincent Hervouette, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir Vincent, merci d'être avec nous.
Bonsoir Laurence.
Nous sommes avec Charles Consigny, avocat. Bonsoir mon cher. Bonsoir. Charles. Et nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
Bonsoir, bonsoir Laurence.
Geoffroy, merci d'être resté avec nous. On va repartir un instant à Londres, si vous nous le permettez, puisqu'il y a eu cette procession impressionnante il y a quelques instants, le cercueil de la reine Elisabeth II qui a quitté Buckingham Palace pour rejoindre Westminster Hall. Il est désormais exposé au sein de cet endroit absolument somptueux, un catafalque violet, de couleur violette, avec le cercueil de la reine et la couronne d'Angleterre posée juste sur le cercueil. Nous sommes avec Vincent Fahandez et Thibault Marcheteau. Vous êtes sur le pont devant lequel, sur lequel des centaines déjà de Britanniques font la queue pour pouvoir aller rendre hommage à leur souveraine.
Oui, nous sommes sur le Westminster Bridge, c'est-à-dire le pont en face du London Bridge. C'est là-bas que commence la queue, en face de nous, je ne sais pas si vous voyez. Et il y a cette immense file d'attente ici sur les quais de la Tamise. C'est très impressionnant. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte avec nos images. Actuellement, la file d'attente fait à peu près 5 kilomètres. actuellement, la queue fait à peu près 5 km et c'est très anecdotique, j'allais dire, mais il y a sur Internet un site qui permet aux gens de voir où en est la queue exactement, où est-ce qu'il faut se rendre très précisément pour eh bien, accéder à la queue. On attend 20 à 30 heures de queue. Et parmi les personnes qui sont dans cette file d'attente, il y a évidemment les personnes que l'on a rencontrées lors de cette procession qui allait de Buckingham jusqu'au Westminster Hall. Ils étaient nombreux à nous dire qu'ils comptaient venir ici se recueillir auprès du cercueil de la reine. Et c'est vrai que cette procession, nous l'avons vécue. Nous-mêmes, Thibaut et moi, étions assez émus de voir ce cercueil défiler devant nous. Les nombreux spectateurs l'étaient d'autant plus parce qu'ils sont évidemment britanniques. Ils sont venus rendre hommage à la reine. Je vous propose d'écouter Laura et John, deux générations totalement différentes, mais le même message au fond. Écoutez.
She deserves.
Elle mérite d'être respectée et elle mérite que tout le monde lui montre tout l'amour qu'on avait pour elle. Elle avait un sens aigu d'unité, elle était un peu comme notre grand-mère à tous, pas qu'à nous les Britanniques, mais au monde entier.
Elle était le leader du pays, le leader de l'armée. Son décès est une grande perte. Aujourd'hui, nous allons de l'avant et son fils, le roi Charles III, sera brillant et sera à la hauteur.
Voilà, et ces personnes qui étaient des inconnus juste avant la procession, eh bien, ont eu le temps de faire connaissance pendant 5 à 6 heures d'attente. Et c'est vrai que c'était assez touchant à voir. Et pour nous journalistes, ces personnes qui se sont saluées à la fin de la procession, qui se sont encouragées, qui se sont fait des câlins pour se soutenir, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient très émues, avec parfois des larmes sur les joues.
Merci beaucoup Vincent Fernandez avec Thibaut Marcheteau. On va juste rejoindre l'un de nos autres envoyés spéciaux, Florian Tardif, avec Antoine Estève. Vous êtes au dernier point de passage du public avant de rentrer dans Westminster, c'est ça ?
Oui, tout à fait, Laurence. Nous nous trouvons au niveau du Lambeth Bridge, le pont de Lambeth. C'est le dernier point de passage avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte du Parlement britannique. Il y a une tente qui a été disposée à l'extérieur du jardin où se situe le Parlement britannique. Et c'est le dernier point de passage. On sent une certaine émotion ici alors que les Britanniques qui ont parfois attendu pendant des heures pénètrent dans l'enceinte du Parlement. Pour vous donner une idée de jusqu'où à cette importante file d'attente, il faut remonter le long de la Tamise sur 5-6 km et arriver de l'autre côté de la capitale au niveau de cet impressionnant bâtiment qu'est le Shard, un bâtiment de verre, alors que vous voyez ces premiers Britanniques, ces premiers étrangers qui sont en train en ce moment même, et vous les entendez sur Europe 1, les pas qui s'additionnent alors que nous pénétrons dans l'enceinte de Westminster. C'est assez impressionnant, touchant de voir ces Britanniques, ces étrangers montrer leur bracelet jaune, signe qu'ils peuvent enfin pénétrer dans ce hall de Westminster où repose donc à présent, pendant une période de 4 jours, la reine. Ils vont dans un instant se recueillir devant elle, quelques instants à peine, puisque les agents de sécurité qui sont placés tout le long du parcours demandent à ces personnes « keep moving ». Continuer d'avancer pour qu'il y ait le plus de monde possible à pouvoir se recueillir justement comme cela devant le cercueil de la reine.
Merci Florian Tardif avec Antoine Estève. On rejoindra Stéphane Place d'Europe 1 dans un instant. Vincent Herouet, on a ce spectacle magnifique, on a eu ce cortège avec ces soldats britanniques, avec toute la famille royale derrière le corbillard qui a pris lentement la direction de Westminster. Il y a ce face de la monarchie anglaise qui nous éblouit. Pourquoi ça nous éblouit tant, nous, Européens, Français particulièrement ?
Parce que vous avez un très grand peuple qui se réconcilie avec l'histoire, parce que vous avez... Et même, bon, alors, il y a effectivement le défilé qui est magistral, les 75 pas par minute, la tenue extraordinaire de cette famille, les oriflammes, le catafalque gigantesque, là, dans la grande salle du Parlement britannique, tout ça nous donne à réfléchir sur l'histoire, mais... Et même, regardez la foule qui se presse, ce qui est très frappant quand on regarde... Le film, la vidéo, là, c'est que ce sont c'est des Anglais de tous les milieux, de tous les âges. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais il y a des gens qui viennent de partout, de toutes les races d'ailleurs, de toutes les couleurs. C'est vraiment un peuple qui, dans sa diversité, vient se rassembler, s'unir au pied donc de la dépouille du souverain. Et je suis pas en train de faire un couplet souverainiste, mais c'est très frappant parce que c'est rare finalement que vous voyez tout un peuple ensemble en train de pèleriner comme ça, de marcher jusqu'au pied du trône.
Charles Consigny, cette image symbolique que nous offre le peuple britannique depuis des jours, depuis le décès de la reine, il entraîne une forme de nostalgie chez les Français, ou pas de la monarchie, mais en tout cas d'une forme d'autorité, de spiritualité qui manque au pouvoir aujourd'hui.
Écoutez, moi, je n'ai pas du tout ce sentiment qu'en effet, on a pas mal entendu dans les médias. Je pense que les Français, tout simplement, en fait, respectaient cette reine qui a toujours tenu son rang d'une manière assez remarquable qui a commis très peu d'impairs en fait finalement durant son long règne et qui a tenu symboliquement la tête de l'État de la couronne et de l'État britannique, de l'État anglais. Et jusqu'à récemment, y compris pendant la crise du Covid, elle avait diffusé un message vidéo qui était très fort, qui était très, très, avec un ton extrêmement juste. Elle avait mis les mots sur ce qui se passait. Elle avait dit Better Days Will Come.
Sans dramatiser,
tout en prenant la parole dans un moment qui était dur. Et donc, je crois qu'il y a surtout, en fait, une forme de respect des Français pour ça. Mais je ne crois pas qu'il y ait ni une nostalgie de la monarchie, ni un sentiment que les Anglais jouiraient de je ne sais quelle spiritualité supplémentaire par rapport à la nôtre. Et de toute façon, je pense qu'en France, on ne supporterait pas un instant les privilèges dont bénéficie la famille royale britannique. Quand on voit ce qu'on fait à nos parlementaires à qui on demande de justifier chaque tube de dentifrice acheté au cours de leur mandat, je pense pas qu'on tiendrait 48 heures avec un monarque en France. Donc je crois que c'est surtout du respect.
Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On continuera à évoquer en un mot ces cérémonies royales, puisqu'elles vont durer jusqu'à lundi. On essaiera de comprendre ce qui va se passer d'ici les obsèques, évidemment, royales de lundi. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Geoffroy Lejeune, Vincent Herouette et l'avocat Charles Consigny. Encore un petit tour du côté de Londres où se trouve Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1. Stéphane, vous êtes à côté de Buckingham. Il y a un monde fou autour de vous. C'est bien cela? Racontez-nous.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, Laurence. Effectivement, une foule extrêmement compacte. Il a fallu que je m'éloigne à la fois pour trouver du réseau, parce qu'il y a tellement de monde, et bien que la connexion téléphonique ne fonctionne plus du tout à certains moments. Et puis ensuite, pour être un petit peu à l'abri de ce brouhaha qui est très british, très tranquille. Ce sont des conversations entre gentlemen. Vraiment, il faut saluer dans l'organisation de cet événement ce calme, ce pragmatisme. On est aimable avec son voisin, on le laisse passer, alors que très honnêtement, il y a des barrières partout, des policiers qui vous interdisent avec un grand sourire le passage, mais qui vous l'interdisent quand même, et tout cela se déroule avec énormément de respect et de dignité. On l'a vu tout à l'heure quand, placé sur un affût de canon, le cercueil toujours drapé bien sûr de l'étendard royal et sur lequel était posée la couronne impériale sur un coussin violet ainsi qu'une gerbe de fleurs, quand ce cercueil est arrivé, tout de suite, les Britanniques qui étaient avec moi l'a massé le long de toutes ces barrières dans ce parcours, ont commencé à chuchoter. Vous vous rendez compte? Ils ont à peine vu arriver le cortège qu'instinctivement, ils ont baissé de plusieurs tons. Ils chuchotaient. Et au même moment, je vais vous faire une confidence, j'ai reçu un coup de téléphone de la rédaction en chef. Eh bien, je peux vous dire que le vieux monsieur anglais qui était à côté de moi, coiffé d'un chapeau melon, il n'y a qu'à Londres que l'on trouve cela, m'a regardé gentiment, vraiment très aimablement, il m'a dit « Bien sûr, c'est votre dernier coup de fil. » Le message était clair. Et c'est ainsi que s'est déroulée cette cérémonie. Et on retrouve là toute l'empreinte britannique.
Un tout petit mot, Stéphane, de la famille royale qui suivait le cortège. C'est la première fois qu'on voyait réunis les quatre enfants, la reine Elisabeth, et les petits-enfants. Il y avait les princes William et Harry.
C'est vrai, dans ce silence et ce recueillement, et dans ce moment d'unité pour le pays, beaucoup de Britanniques me disent cela, me disent c'est une parenthèse. Alors, eh bien, la famille royale doit aussi donner quelque part des gages de cette unité, y compris en son sein. Et effectivement, tout à l'heure, quand on a vu ces deux garçons marchant côte à côte, ils sont très grands d'ailleurs, je ne les avais pas vus d'aussi près jusqu'à présent, eh bien, c'est une image qui a rappelé celle que l'on a tous en tête et qui date d'il y a 25 ans pour les obsèques de leur mère, quand ils étaient derrière le cercueil de Diana. Et bien entendu, chacun s'est dit, Andrew et William sont là, sont ensemble, c'est quand même important. C'est un moment de recueillement national, mais c'est aussi un moment d'épreuve, de douleur familiale. Vous avez noté aussi qu'il y avait des différences. Le prince de Galles, désormais, était vêtu de son uniforme, alors que Andrew, par exemple, leur oncle était, lui, en civil, et qu'il n'était pas question qu'il puisse porter un uniforme, puisque le duc d'York a été banni de la monarchie et ses titres militaires lui ont été retirés en début d'année, après avoir été au cœur d'un scandale, puisqu'il est accusé d'abus sexuels sur une jeune fille de 17 ans dans le cadre de l'affaire Epstein. Et donc, voilà, on a vu les deux garçons, on a vu également la princesse Anne, on a vu le roi qui était en uniforme naturellement. Bon, on a vu la famille avec certes des différences et qui viennent rappeler quelques épreuves ou quelques situations délicates ou quelques conflits entre les frangins, notamment entre les deux frères qui perdurent, mais la famille était là.
On signale aussi que le prince Harry était en civil parce que lui aussi Absolument. A perdu ses titres militaires, c'est ça Stéphane ?
Exactement, il était en redingote avec toutefois, je l'ai aperçu, je l'ai vu d'assez près, une barrière de, enfin pardon, des médailles là, vous savez, je ne sais pas comment on peut expliquer, décrire cela, je ne suis pas spécialiste de la chose militaire, mais en tout cas, il avait de nombreuses décorations puisque vous savez qu'il a été engagé notamment en Afghanistan.
Merci beaucoup Stéphane Place pour ce récit palpitant de ce qui s'est passé cet après-midi. Vincent Hervouet, tout ça va se prolonger, cette procession interminable des Britanniques et peut-être d'autres nationalités va se prolonger jusque lundi matin 5h30.
C'est interminable.
C'est à ce moment-là seulement, ça va durer des jours et des jours et des jours, qu'on va passer au deuil national.
Là, ce n'est pas encore le deuil national. Vous êtes impatiente, vous êtes dans l'info continue, vous n'êtes pas dans le rituel de la monarchie.
Nous sommes dans une autre temporalité.
Ça fait 70 ans en plus qu'ils attendent ça, donc ils ne vont pas se priver. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu de tendance, alors c'est ce que remarquaient des esprits malins du protocole en France, c'est qu'ils ont un peu tendance quand même à tirer à la ligne. Ils abusent de ce moment de soft power absolument mondial. On admire les uniformes, on admire les couleurs, on admire les décorations, on admire le rituel. On est dans un moment qui est vraiment plein de symbolique et de sacré. Cela étant, oui, c'est vrai que votre correspondant a raison de le faire remarquer. Il y avait deux hommes en redingote dans la famille royale, deux qui ne portaient pas l'uniforme. Ce sont les deux qui ont fait la guerre, l'un au Malouines et l'autre en Afghanistan. Les deux seuls qui n'avaient pas le droit de porter l'uniforme sont les deux seuls qui ont connu le feu. Qui ont connu la guerre et pas simplement dans les livres.
Geoffroy Lejeune, vous vouliez réagir à ce que disait Charles Consigny tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nostalgie de la monarchie dans notre pays. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Déjà, je salue dans le courage de Charles Consigny qui, en fait, dans ce concert de nostalgie de la monarchie qu'on entend dans les médias français depuis maintenant jeudi soir, Charles est probablement le premier, le seul qui a osé dire que ça n'était pas ça du tout. Moi, je suis désolé. En fait, je vois quand même, on ne va pas dire que c'est une nostalgie de la monarchie parce qu'en réalité, les Français connaissent assez mal ce régime, même si ça a été le leur pendant 1500 ans. Et surtout, si on devait aujourd'hui rétablir la monarchie, on aurait probablement beaucoup de mal à le faire en France. On n'a pas de roi à mettre sur le trône, ou plutôt on en a deux. Donc il y aurait déjà une guerre, un pugilat pour le remplacer qui finirait par ressembler à la démocratie. Donc la question n'est pas là. En revanche, il y a quelque chose dans la monarchie qui nous manque et dont je pense inconsciemment, on a tous la nostalgie, c'est ce à quoi on assiste depuis bientôt une semaine maintenant. C'est cette forme d'unité qu'on voit du royaume et de ses sujets. Autour de la figure de la reine qui est au-dessus de la mêlée politique, etc. Et que nous, on a perdu complètement. Si on refait l'histoire rapidement constitutionnelle de la France depuis qu'on s'est débarrassé du roi, on a eu des régimes qui ont volé en éclats, on a eu des républiques qui se sont succédées, balayées par les secousses de l'histoire jusqu'à la Ve République et qui d'ailleurs a fonctionné plus longtemps parce que le général de Gaulle a voulu justement une monarchie constitutionnelle. Et il y a d'ailleurs, c'est ce que aujourd'hui les opposants à la Ve République reprochent le plus plus à cette constitution, c'est d'avoir essayé de copier un peu. Et le général de Gaulle, on sait, était à défaut d'être un nostalgique, au moins un monarchiste en réalité. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, après 220 ans, 230 ans de libération de la monarchie, on en arrive à une situation où un pays, aujourd'hui, n'a comme événement commun que finalement, Vincent Hervouet le disait tout à l'heure hors antenne, les Coupes du Monde de football, où là tout à coup on parle de la communion du peuple français et ça, et qui est même comme symbole commun, comme rituel commun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui unit tous les Français? Peut-être le fait de passer le permis de conduire, jadis le service militaire qui ne concernait que les hommes. On a très peu de choses comme ça en réalité. Et aujourd'hui, vous voyez cette file d'attente, ces 30 heures d'attente pour aller saluer le cercueil d'une monarque. Eux, ils ont ça. Et je pense que ça, on peut leur envier.
Charles Consigny.
Je pense que c'est un non-sujet, franchement. D'abord, quand Chirac est mort, souvenez-vous qu'il y avait une très longue file d'attente aussi pour aller...
devant les Invalides.
Objection, ça a duré une demi-journée. Non, mais voilà, il y a des dizaines de milliers de personnes, c'est incomparable. Non.
Ah bon, bah alors j'ai pas les chiffres exacts du nombre de personnes. Moi, je pense que c'est un non-sujet et qu'on peut pas... regretter la monarchie, je pense que c'est un sujet exclusivement médiatique et je trouve qu'on en fait trop d'ailleurs pendant les Coupes du Monde sur la communion. Moi, je me fiche complètement qu'on gagne ou qu'on perde la Coupe du Monde de football. Je pense que beaucoup de Français s'en moquent et je pense qu'on est quand même tous, quoi qu'il arrive, attachés à notre pays, qu'on s'en fait tous une certaine idée. Et d'ailleurs, par exemple, quand il s'agit de voter pour notre monarque républicain au moment des présidentielles, on a un taux de participation qui est extrêmement élevé. Mais toujours extrêmement élevé malgré tout. Donc moi, je ne me fais pas de soucis. Je pense que l'unité des Anglais, elle est à relativiser aussi. Je suis pas sûr qu'ils soient tous bouleversés. Comme les gens qui viennent saluer cette
sans doute,
dépouille.
Sans doute. C'est assez juste, Vincent Hervouet. L'ensemble des Britanniques n'est pas en train de se lamenter ce soir.
Totalement. Je pense exactement le contraire de ce qui vient d'être dit, mais ce n'est pas une posture marketing, ce n'est pas une façon de se différencier. Je pense d'abord sincèrement que les Britanniques ont la grande chance de vivre dans une véritable démocratie. On a beaucoup contesté le choix qu'ils ont fait sur le Brexit et la façon dont... les politiciens britanniques ont exploité la colère qu'il y avait dans la population par rapport à un ensemble de choses, bon, et avec beaucoup de mensonges. Mais il y a eu un grand moment, moi j'avais été très frappé, parce que j'étais sur place en reportage, de voir à quel point les Britanniques vivaient ce référendum d'une manière passionnée, fervente et très respectueuse. Il y a une vraie démocratie britannique, même si ces lois nous paraissent souvent un peu exotiques, étranges. Par ailleurs... ce qui tient ensemble les Gallois, les Écossais, les Anglais, et on ne parle pas des Irlandais parce que c'est quand même un cas vraiment à part, ce qui les tient ensemble, c'est quand même l'affection déconcertante, le respect incroyable, à quel point ils s'identifient à la famille royale. Et c'est pas avec toutes les limites que cette famille qui est en permanence épiée, ils ne sont pas particulièrement admirables ou tout le temps admirables, mais il y a vraiment une espèce de communion. Les gens s'identifient à cette famille et se sentent britanniques d'abord, pas par le goût de la météo des chiens ou la connaissance de Shakespeare. Ils se sentent anglais d'abord parce que ils s'identifient à cette famille. Et là, on dit qu'ils vont saluer la reine anglaise. Ils vont pas tellement saluer. Ils ont besoin d'y être. Ils ont besoin d'en être. Ils ont besoin d'aller dans cette grande salle, devant ce catafalque totalement impressionnant, écrasant, avec cette pompe funèbre. Ils ont besoin d'aller sur place pour éprouver ce sentiment d'appartenance. Et moi, je crois vraiment qu'en France, l'un des problèmes de la France, c'est outre le fait qu'on peut avoir honte de soi, honte de ses parents, on peut passer notre temps à insulter les générations qui sont passées avant nous, à réécrire sans cesse l'histoire, à gratter nos plaies. Il y a aussi, en plus, cette honte, qui, contrairement à la fierté anglaise, il y a aussi l'impression de ne plus avoir grand-chose à partager et être cantonné dans son clan, dans sa région, dans son territoire, évidemment, dans son milieu social, dans sa caste, avec pas le sentiment de la fusion des générations.
Jean-François Lejeune, vous partagez cette analyse de Vincent Hervouet ?
Je la partage absolument. Mais d'ailleurs, tous les sondeurs ou les sociologues qui se penchent sur l'état de notre pays, je pense évidemment à celui dont moi je me sens le plus proche, ou en tout cas dont je partage le plus les analyses, Jérôme Fourquet, explique depuis en fait peut-être deux décennies ce mouvement d'individualisme généralisé. Et donc aujourd'hui, je trouve ça déconcertant, moi, de voir des gens qui se retrouvent autour de quelque chose qui n'est pas eux et qui les dépasse encore une fois. Et puis il y a aussi cette formidable, malgré moi toutes les qualités et les vertus que je trouve à la Constitution écrite par Michel Debré, par le général de Gaulle, surtout par le général de Gaulle d'ailleurs, il manque, et puisque d'ailleurs c'est le propre de la monarchie, il manque la dimension de dynastie. Et en fait, tout à l'heure Charles disait qu'est-ce que je raconte ? Je raconte exactement ce que je vais dire maintenant.
Il manque la dimension de dynastie dans la Constitution de 58. C'est-à-dire.
Il manque par rapport à la monarchie. Et vous disiez tout à l'heure, les Britanniques sont émus parce que c'était elle, parce que c'était cette reine, etc. Certes, son règne a été admirable et très long, mais il faut pas oublier que les Anglais chantent déjà God Save the King, pardon. C'est-à-dire que le roi est mort, vive la reine est morte, vive le roi, et que par ailleurs, Elisabeth II est devenue reine dans des conditions assez particulières, très jeune, après la mort de son père, qui n'était pas aussi populaire qu'elle, mais qui a eu des funérailles extraordinaires du même niveau que celle que nous verrons demain. Qui lui-même succédait à son frère qui avait abdiqué et qui a été tout de suite adopté par le peuple britannique. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la succession ne se pose jamais. Et en termes de stabilité, c'est une énorme différence par rapport au système dans lequel nous vivons.
Voilà. Allez, après, en un mot, Charles, parce que c'est
au Zimbabwe non plus, la question de la succession ne se pose pas. Le dictateur Mugabe est là depuis des années. Et c'est pas parce que c'est stable.
Il est tombé, depuis deux ans.
Il est resté pendant combien de temps?
Non, mais il est tombé il y a deux ans.
Il est resté pendant quoi, 60 ans?
Et celui qui l'a remplacé, par contre, s'accroche au pouvoir.
La question, donc, c'est pas posée.
On peut pas comparer Charles.
Mais non, mais parce que vous dites. C'est extraordinaire de dire, oui, la question de la succession ne se pose pas, donc c'est formidable.
On parle du pays, une grande démocratie.
C'est fondamental, au contraire.
On parle du pays qui a inventé la démocratie, quand même.
C'est fou. En tout cas, je pense qu'il n'y a aucun sujet sur la monarchie.
Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres avec Michaël Dorian et on continue ce débat ensuite.
Pour Elisabeth Borne, seule la sobriété et la solidarité européenne permettront d'éviter des coupures. La Première ministre a tenu une conférence de presse cet après-midi pour présenter l'état de la situation énergétique du pays, accompagnée par Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a de son côté précisé que le bouclier tarifaire coûtera à l'État 16 milliards d'euros. Comment promettre aux Européens qu'ils pourront se chauffer cet hiver? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté des mesures d'urgence pour répondre à la crise énergétique. Elle a proposé notamment un plafonnement des super-profits qui rapporterait 140 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme rappelle à l'ordre la France. Elle reproche aux autorités de ne pas avoir étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement de familles de djihadistes en Syrie. La Cour avait été saisie par deux couples de Français. Ils avaient demandé aux autorités le rapatriement de leurs filles, compagnes de djihadistes, et de leurs trois enfants.
Merci beaucoup Michaël Dorian. Dans un instant, la suite de nos débats dans Punchline. On évoquera aussi la facture qui va être salée pour les Français à partir de janvier 2023. Une hausse de 15% des prix de l'électricité et du gaz. Il y aura une aide du gouvernement et sans doute pas de quoi couvrir cette hausse. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Il est 18h35, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On va parler de la crise énergétique. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé cet après-midi une hausse de 15% des prix du gaz et de l'électricité pour 2023 lorsque le bouclier tarifaire du gouvernement sera modifié. Pour compenser ce choc, des chèques énergie de 100 à 200 euros seront envoyés à 12 millions de foyers français parmi les plus modestes. Malgré ces aides, comment réagissent les Français? Est-ce que par hasard, vous allez changer vos habitudes? Est-ce que vous allez baisser le chauffage cet hiver? On vous a posé la question, écoutez la réponse.
Oui, je pense que je vais baisser l'électricité cet hiver. Parce que c'est vrai qu'on a reçu des notifications d'augmentation au niveau des contrats. Donc oui, je pense que je vais un peu moins chauffer.
C'est vrai que j'ai toujours eu le souci d'économiser, même avant qu'on nous parle de cette crise. Ne serait-ce que par souci des factures et par souci en général.
Je crains fort qu'il faille prendre de nouvelles habitudes, peut-être une autre manière de vivre, je ne sais pas.
Je ne vais pas rester à 19 degrés si j'ai froid, donc je mettrai le chauffage qu'il faut. et je payerai les factures qu'il faut.
Je pense qu'on peut tous faire de la sobriété à son niveau. On est habitué à toutes sortes de conforts. Je pense que, bon voilà, s'il faut faire des efforts.
Et oui, on va faire tous ces efforts. Charles Consigny, un chèque à nouveau de 100 à 200 euros pour 12 millions de foyers. Le gouvernement n'a pas le choix en réalité.
Non, moi, je pense qu'il faut aider évidemment les foyers les plus modestes, les gens qui n'arriveraient pas sans ça à se chauffer cet hiver. D'ailleurs, moi, j'ai régulièrement entendu, notamment dans le Jura, où j'ai une partie de ma famille, j'ai très souvent, et où il fait particulièrement froid l'hiver, c'est pour ça que j'en parle, j'entends régulièrement des gens se demander comment ils vont faire pour se chauffer pendant l'hiver. Donc c'est un sujet qui date pas de la guerre en Ukraine. Je suis quand même sidéré que c'est Madame Borne qui a participé à la fermeture de Fessenheim. L'électricité ne devrait pas, le prix de l'électricité, si notre pays avait été administré, gouverné avec responsabilité et objectivité, sans acrobatie politicienne, elle ne devrait pas augmenter l'électricité, puisqu'on devrait, au contraire, grâce à l'énergie nucléaire, à l'industrie nucléaire, avoir une électricité pas chère. Et c'est un des atouts français. On n'a pas 12 000 atouts. On a notamment le nucléaire. Et c'est François Hollande puis Macron qui, pour faire plaisir aux écolos, pour des raisons donc politiciennes, ont fermé Fessenheim et n'ont pas suffisamment investi dans les centrales nucléaires. Et par ailleurs, je sais aussi que l'entretien de centrales nucléaires a été reporté à cause des mesures Covid à l'époque de la crise sanitaire, parce que c'était tellement strict que EDF a préféré reporter les opérations. Donc il y a des responsabilités politiques. Et je trouve assez sidérant qu'elles ne soient pas mises sur la table et surtout qu'on ne nous annonce pas dès maintenant des nouveaux investissements importants dans le nucléaire. Mais pas dans les proportions qu'il faudrait.
Création de réacteurs.
Et puis là, souvenez-vous qu'il a en plus, au début... Il n'était pas sûr de lui au début du quinquennat. Il était encore anti-nucléaire au moment où il disait « Make our planet great again », etc.
D'accord. Moi, je la trouve droite n'est devrait... pas beaucoup montée au créneau non plus sur le nucléaire, devrait... hein, Charles.
Si, bah,
non.
Souvenez-vous, alors là,
en 2017
vous avez...
Alors,
en 2017, je ne sais pas, mais vous avez en 2012 le débat Sarkozy-Hollande, où Sarkozy
2012,
fait la leçon à Hollande sur la question de Fessenheim. Donc vous êtes d'autant mieux placé pour le savoir, absolument.
Mais en 2017, on n'a pas entendu la droite monter au créneau sur le nucléaire.
Les gens qui ont porté...
C'était pas le cheval de bataille de la droite.
Maintenant, je pense qu'il faut que ça fasse consensus, le nucléaire, qu'on doit investir massivement dedans. À mon avis, on doit investir davantage dans le nucléaire que dans les éoliennes ou dans ce genre de choses, puisque c'est quand même notre outil majeur, et c'est quand même dommage de saborder un de nos outils majeurs.
On a la moitié des réacteurs à l'arrêt. Ils seront tous redémarrés, a dit le patron d'EDF, d'ici le mois de février. Espérons que ça nous permettra de passer l'hiver. Chauffera les jeunes.
Moi, je suis pas là pour défendre l'UMP. C'est plutôt le boulot de Charles normalement, mais je vais rendre hommage à deux anciens députés.
C'était beau, l'UMP.
À deux anciens députés, Bernard Accoyer, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui est un spécialiste du sujet, qui a beaucoup alerté sur là-dessus, et puis Julien Aubert, qui vient d'être battu aux législatives, qui lui a même fait des missions parlementaires sur le sujet, qui était extrêmement alarmiste, qui a crié un peu dans le désert. Hein, vous avez raison. C'est pas qu'ils ont pas travaillé dessus, c'est qu'ils étaient pas du tout audibles. Ça, c'est pour d'autres raisons. Mais il y a quand même des gens qui ont essayé d'alerter là-dessus, beaucoup de spécialistes, etc. Sur les lubies écologistes. Moi, ce qui m'agace un peu dans cette grand-messe de la conférence de presse à laquelle on finit par s'habituer, vous savez, on avait les mesures Covid, après Jean Castex, ils venaient nous expliquer ce qu'on avait le droit de faire ou pas le droit de faire, maintenant on a les chèques, c'est qu'il faudrait, en fait, on a l'impression qu'ils attendent qu'on leur dise merci, merci pour ce chèque énergie, merci pour ces 16 milliards supplémentaires, sachant que, en effet, ce sont ces gens qui ont pris des décisions qui nous ont mis dans cette situation, et des décisions, encore une fois, c'est à la fois l'incohérence de la politique sur le nucléaire et aussi les sanctions contre la Russie. Et à la fin, on est censé applaudir parce que certains foyers... Et juste un petit mot aussi pour dire que ça va concerner 12 millions de foyers, c'est-à-dire un petit nombre de foyers par rapport à l'ensemble de la population française.
Or, les plus modestes, ce qui est assez logique.
Et c'est pas du tout un problème dans ma bouche. C'est juste pour vous dire que l'inflation qu'on vit aujourd'hui est un impôt finalement très égalitaire qui touche tout le monde de la même manière. Le plein à la pompe, ça touche tout le monde de la même manière. Évidemment, l'augmentation des tarifs de l'électricité, du gaz, etc., touche tout le monde de la même manière. Et encore une fois, Je dis pas qu'il faut pas aider les plus modestes, mais encore une fois,
les classes moyennes.
Voilà, c'est en fait les classes moyennes. Encore une fois, Dimitri Pavlenko l'expliquait remarquablement bien. Oui. Les plus riches s'en sortent bien, les plus pauvres sont aidés et les classes moyennes qui sont les plus nombreuses, elles se font asphyxier complètement. Le vrai sujet aujourd'hui pour moi, c'est celui-là, c'est-à-dire que je ne connais pas une personne, quel que soit son niveau de vie, qui ne s'inquiète pas de ce qui est en train de se passer et on va aider le décile ou les quelques déciles les plus pauvres de la population.
Vincent Herouet.
Toujours une bonne raison de s'inquiéter, hein. Ça c'est cela étant, hein. C'est quand même c'est l'énergie, c'est le carburant de notre métier. Il y a toujours une raison de s'angoisser de l'avenir qui vient,
ça, des périls qui s'accumulent. Ça, c'est une ressource inépuisable.
Bon, la politique étrangère est pas mal non plus d'ailleurs pour fournir le charbon à cela. Non, ce qui est très frappant, c'est que l'aventure nucléaire française, ça a vraiment été une décision d'État, un projet porté par effectivement le parti gaulliste en son temps, avec une planification, avec l'importation d'un modèle de réacteur Westinghouse des États-Unis, puis ensuite la construction systématique de centrales sur un modèle unique, comme des préfabriqués, qu'on a réussi ensuite à exporter. On a fait durer ça. La compétence des acteurs de cette filière, on a essayé de le faire durer par l'exportation en Chine, notamment dans les années à la fin du siècle dernier. Et puis, c'est tombé en déshérence. Pourquoi ? Parce que il y avait une espèce de chantage à la fois des Européens et des écolos. C'est pas tant finalement à François Hollande qu'il faudrait le reprocher qu'à Nicolas Hulot et à l'influence qu'a eu un petit groupe de militants anti-nucléaires sur quelque chose qui était un outil de souveraineté absolument incroyable et qui était en plus le projet abouti d'une volonté d'État vraiment à l'œuvre pendant 30 ans. Ça a été bazardé comme on rase un monument historique parce qu'on n'a pas envie de refaire la toiture.
En attendant, il y a des problèmes concrets pour les Français et il faut les régler et le gouvernement s'y attelle avec plus ou moins de bonheur. Je voudrais qu'on garde quelques minutes pour évoquer la situation de la France par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, cette Cour, qui est supranationale, a rappelé à l'ordre la France parce qu'elle estime qu'elle a failli dans sa politique de retour des familles, notamment femmes et enfants, qui se trouvent dans les camps irako-syriens. Et voilà, la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France, enfin a rappelé à l'ordre la France. Donc il faut rapatrier plus de ces femmes et enfants selon cet organisme supranational. Et puis on a appris aussi, dans le même temps, que parmi les femmes de djihadistes qui ont été rapatriées en France en juillet, il y avait une femme qui s'appelle Kaïna, qui est la femme de Sami Amimour. Sami Amimour est l'un des terroristes du Bataclan. Et que voilà, qui a été évidemment perpétré les massacres du Bataclan, et sa femme a notamment à plusieurs reprises salué les actions terroristes de son mari. On fait le point avec Sandra Buisson, puis je vous demande ce que vous en pensez.
La veuve de Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan, faisait partie des 16 Françaises ramenées de Syrie en juillet dernier. Elle a été placée en détention provisoire après avoir été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour apologie du terrorisme. Elle était partie en Syrie en 2014 avec Sami Amimour et avait multiplié depuis cette date les messages d'adhésion à l'idéologie de l'État islamique. En décembre 2014, par exemple, dans un message à sa belle-sœur, elle menaçait de venir en France, je cite, « égorger des mécréants ». Après s'être réjouie des attentats de 2015, elle avait confié à son frère que ça ne faisait que commencer. Le 16 novembre 2015, juste après les attentats de Paris et du Stade de France, elle écrivait à un de ses anciens professeurs de lycée qu'elle avait encouragé Sami Amimour dans cette action et qu'elle était fière de lui. Comme Émilie Koenig, ramenée elle aussi en juillet dernier, soupçonnée d'avoir recruté pour l'État islamique et d'avoir appelé à attaquer les pays occidentaux. Ce sont des profils que les juges d'instruction antiterroristes veulent récupérer en France. D'abord parce que ces femmes doivent y être jugées et parce que certaines ont des informations sur les organisations terroristes qui ont opéré en Irak et en Syrie entre 2013 et 2019. Côté sécuritaire, les autorités commencent aussi à juger qu'au vu de la situation instable en Syrie, il est moins dangereux d'avoir ces femmes sous contrôle en France plutôt que de les voir risquer de sortir des camps kurdes, disparaître et ainsi reconstituer une menace pour la France. À cette heure, il reste une centaine de femmes et près de 250 enfants français dans les camps kurdes en Syrie.
Merci Sandra Buisson et j'aimerais qu'on écoute la réaction d'une association de familles de victimes des attaques de Paris, du Bataclan. Arthur Desnouveaux, il est déçu. Il dit que la France aurait pu la rapatrier depuis longtemps et la juger lors du procès des attentats du 13 novembre. On l'écoute.
Je connaissais le chiffre, le nombre de rapatriés du 5 juillet. Je savais pas que la veuve de Sami Amimour y était. Et ça a été une grande surprise et aussi quelque part tout de suite une déception de me dire que si on la rapatriait début juillet, ça voulait probablement dire qu'on aurait pu la rapatrier plus tôt ou du moins l'interroger en visio pendant le procès et qu'on a raté une occasion d'en apprendre un peu plus sur les préparatifs dont elle disait être au courant. J'ai pas de colère parce que je sais que là elle est en prison, je sais qu'elle est inculpée pour AMT et je sais qu'elle va passer de longues années en prison. J'ai un peu un sentiment d'occasion manquée, on s'est donné 10 mois pour tout regarder dans ce procès et en fait on aurait peut-être pu regarder encore un peu plus. Donc c'est plus de la déception qu'autre chose.
Voilà pour Arthur Desnouveaux, président de Life for Paris, famille de victimes. Geoffroy Lejeune, bon, il faut rapatrier pour des raisons humanitaires ses femmes et ses enfants. Quand on voit des profils comme ça, effectivement, ça heurte les familles de victimes.
Pour des raisons humanitaires, je ne suis pas certain. Je sais que le droit nous y oblige. Je constate que la Cour européenne des droits de l'homme nous le reproche. J'ai envie de leur dire d'ailleurs de quoi je me mêle, mais c'est un autre sujet et on est un peu de toute façon...
On a signé la convention.
Exactement.
Donc nous sommes liés à cet organisme.
Absolument. Je trouve ça déplorable, mais malgré tout, vous avez raison, c'est le cas. Pour des raisons humanitaires, pas du tout. Moi, c'est pas ça qui me préoccupe. J'entends l'argument du renseignement qui a besoin d'en apprendre plus, de questionner, etc., d'avoir, entre guillemets, à sa disposition ce genre de témoin, etc. Maintenant, la raison humanitaire, non. Je comprends très bien aussi la colère ou en tout cas la déception des familles de victimes qui, parce que ce procès, en fait, a été un peu une déception, qui aurait pu en apprendre plus aussi à l'occasion du procès. Maintenant, la raison humanitaire, moi, ne me parle pas. Je mets de côté la question des enfants, c'est autre chose, parce que c'est super compliqué de distinguer, de discerner leur culpabilité, leur adhésion, etc. Là, en fait, on a affaire à des gens... Enfin, le pédigré résumé par Sandra Buisson était extrêmement clair. Quand on sait que son projet est de revenir en France pour égorger des mécréants, on ne doit rien pour des raisons humanitaires à cette personne. Maintenant, il y a une espèce de casse-tête juridique et peut-être même moral ou éthique qui se pose. Moi, je pense qu'on aurait dû, au moment où en fait, ces gens ont brûlé leur passeport en quittant la France et en crachant sur la France pour aller combattre la France ou l'Occident, comme vous voulez, depuis la Syrie. Je pense qu'à ce moment-là, on aurait dû les déchoir de leur nationalité. Je sais que ça fera hurler, je sais qu'on va m'opposer le fait qu'on ne peut pas créer des apatrides, etc.
C'est ça.
Mais... je pense qu'on aurait dû le faire, parce qu'on n'aurait pas eu le casse-tête aujourd'hui, et qu'elle soit prisonnière dans des camps kurdes, qu'elle reste en Syrie, c'était leur problème. Je pense que...
Mais là, vous ne mettez pas les enfants dedans, évidemment.
Non, ce n'est pas le même sujet.
Ok. Charles Consigny, droit de l'hommiste devant l'Éternel.
Non, je ne suis pas droit de l'hommiste devant l'Éternel.
Vous êtes attaché au droit de l'homme, ce qui est une
Mais j'espère qu'on est tous attachés au droit de l'homme. Je suis attaché aussi à la Cour européenne des droits de l'homme parce que il vous a pas échappé que la justice française dysfonctionnait dans son ensemble et notamment la justice pénale. Et l'avocat que je suis qui plaide chaque semaine devant des juridictions pénales vous confirme qu'il y a régulièrement des dysfonctionnements et parfois on a envie et ça prend des années. On a besoin et on est en droit de s'adresser à un organe, là je ne parle pas de cette affaire en particulier, mais un organe supranational qui vient aussi rappeler à la justice française tout simplement son obligation de respecter les droits fondamentaux des justiciables. En l'occurrence, pour ce qui concerne ce dossier, il faut avoir en tête que les familles de djihadistes rapatriés, elles ne sont pas... au Club Med, une fois qu'elles arrivent en France,
la plupart sont incarcérées.
Bah, c'est ça, toutes personnes qui présentent le moindre signe de radicalisation islamique et le fait de se rendre en Syrie en plein État islamique est un léger signe de radicalisation.
A priori.
Et donc, dans ces cas-là, ils sont évidemment mis en examen, incarcérés, et ils passent beaucoup de temps en prison. Donc moi, je ne vois pas tellement de... Là non plus, je ne vois pas tellement de polémique. Si ce n'est que, je pour le coup, le droit de l'hommiste que je suis considère quand même que l'État français... On n'a pas à demander à l'État français de se démultiplier pour rapatrier séance tenante et de toute urgence les familles de djihadistes qui sont allées de manière, quand je parle là des femmes, de manière consciente et consentie sur des terrains où elles sont allées pour vivre selon l'islamisme le plus radical. Je trouve que l'État français a quand même d'autres choses à faire.
Vincent Herouet, votre avis sur cette question épineuse.
Alors, il y a un dilemme politique. Sans faire de polémique, moi, je ne suis pas sûr non plus que les Français seraient tellement heureux de savoir que leurs impôts vont permettre de verser plus de 30 000 euros aux familles de ces deux femmes qui ont donc porté l'affaire devant la Cour européenne de justice, puisque la France a été condamnée à verser 18 000 euros à l'une et 13 000 euros à l'autre. Bon, premièrement, premier point. Deuxième point, il y a une centaine d'enfants et 250 femmes, si je me souviens bien, qui sont aujourd'hui retenus dans les deux camps de Roj et d'Alol au nord-est de la Syrie, au nord-ouest de la Syrie, puisque ce sont les Kurdes, les Peshmerga, qui nous servent aujourd'hui de garde de matons, en quelque sorte, dans des camps qui sont effectivement à la fois des bubons, des foyers où on entretient, vous avez vu les images, ces femmes ne sont pas des veuves, elles ne portent pas le deuil, ce ne sont pas non plus des victimes d'ailleurs, ce sont des égéries de l'islamisme le plus radical. Et leurs enfants sont élevés dans ces camps de manière qui est effectivement extrêmement choquante et en plus qui est sans doute imprévoyante parce que on est en train de fabriquer des générations d'enragés. Hein. Donc c'est un vrai dossier compliqué. Quand on me dit que les services de sécurité ont besoin de les entendre, j'ai du mal à le croire 8 ans après. Le califat est tombé en 2019, les attentats en France, c'est 2015. Qu'est-ce qu'elles auraient à raconter de plus aujourd'hui qui soit efficient dans la lutte antiterroriste? Parce que il ne faut pas s'illusionner, les services d'enseignement sont dans ces camps. Les gens ont été entendus. Ils ont été très, comme on dit vulgairement, dans ces milieux. Bon. La Cour européenne de justice exige qu'on les rapatrie. La France doit en rapatrier un certain nombre. Il y en a déjà, début juillet, plusieurs dizaines qui ont été ramenées en France. Il y aura beaucoup de mal à les garder sous les verrous parce que vous ne pouvez pas documenter, en quelque sorte, les éventuels crimes qu'elles ont commis. C'est extrêmement difficile de trouver des témoignages qui soient établis et qu'on puisse exhiber en justice. Donc, de toute façon, ce sera porte ouverte. La France va être obligée de les rapatrier. Après tout, on aurait pu imaginer que ce soit le gouvernement syrien ou éventuellement le gouvernement irakien qui leur demande des comptes sur leur engagement, puisqu'elles ont été partie prenante, et parfois les armes à la main, et parfois avec un soutien vraiment effectif, une adhésion pleine et entière à cette organisation terroriste qui était Daesh. Mais ça, il faudrait encore qu'il y ait un État avec lequel on corresponde en Syrie et qu'il y ait en Irak une justice que l'on puisse financer. On la finance hein, déjà. Donc, ils jugent les hommes. Les femmes, c'est plus compliqué. Et les enfants, la question des enfants, elle est pendante. C'est un vrai problème.
Les enfants évidemment qui nécessitent des soins, un vrai suivi psychologique à leur retour en France, de parce qu'ils ont vécu là-bas dans ces camps et parce qu'il faut les insérer, les réinsérer dans une société française qu'ils ne connaissent pas. C'est un véritable problème pour eux.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Vincent Hervouet sur la question de documenter les agissements de ces femmes dans ces terrains. D'abord, le standard de preuve est assez faible pour l'association de malfaiteurs terroristes, c'est-à-dire qu'assez peu d'éléments suffisent quand même maintenant selon les décisions qui tombent depuis quelques années pour condamner quelqu'un à de nombreuses années de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Donc il n'y a pas besoin de démontrer que vous avez en particulier participé à tel et tel crime terroriste. En réalité, on peut se contenter tout à fait d'un faisceau d'éléments qui nous permettent de penser que vous avez voulu participer à des activités terroristes.
Geoffroy Lejeune, il faut rapatrier, donc on n'a pas le choix de toute façon. Et il faut suivre ces enfants, notamment pour ne pas qu'ils
Écoutez, moi, je suis très embêté. La question des enfants, contrairement à ces femmes qu'on peut vraiment incriminer assez facilement, alors je sais pas sur le plan juridique, mais en tout cas, nous, ici, on peut dire assez facilement, à partir du moment où elle a prétendu, par exemple, la fameuse Kaina.
Qu'elle a écrit.
Émilie Koenig, etc. Mais les enfants, si vous voulez, je me garderai quand même, je pense que Vincent a raison de dire qu'on va préparer potentiellement des générations d'enragés. Je me souviens d'avoir regardé le film de Bernard-Henri Lévy où il racontait son tour du monde et il leur dit à ses enfants, il va les rencontrer, il leur dit, vous allez rééduquer vos parents. Et je pense qu'il faut se garder de tout angélisme sur la question.
Vous avez raison. Merci beaucoup. Geoffroy Lejeune, Charles Consigny, Vincent Hervouet. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 et sur CNews. C'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
19h21, on est en direct sur Europe 1 pour les débats de Punchline avec Émilie Zapalski. Bonsoir. communicante politique. Guylaine Ottenheimer est là, de Challenge. Bonsoir, bonsoir. Guylaine. Et Aminel Katni, essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous retrouver sur le plateau de Punchline. On va parler un tout petit peu de la reine d'Angleterre et puis des annonces qui ont été faites par la première ministre française, Elisabeth Borne. Un petit coup de massue hein, pour les Français avec cette hausse de 15% du prix de l'électricité et du gaz à partir du mois de janvier. Mais d'abord, les Britanniques qui pleurent leur souveraine, des larmes et du recueillement aujourd'hui à Westminster Hall, où le corps de la reine est désormais exposé. Écoutez quelques réactions de citoyens des sujets de la reine.
Elle mérite d'être respectée et elle mérite que tout le monde lui montre tout l'amour qu'on avait pour elle. Elle avait un sens aigu d'unité, elle était un peu comme notre grand-mère à tous, pas qu'à nous les Britanniques, mais au monde entier.
Elle était le leader du pays, le leader de l'armée. Son décès est une grande perte. Aujourd'hui, nous allons de l'avant et son fils, le roi Charles III, sera brillant et sera à la hauteur.
Voilà pour ces réactions de Britanniques. Guylaine Ottenheimer, il y a une vraie émotion dans ce pays qui fait nation. Et ça, c'est intéressant à observer.
Oui, c'est une énorme émotion. Mais ce que je trouve intéressant, c'est au fil des jours, au début, on était resté fixé sur une reine un peu dure, notamment l'épisode Diana, mais aussi l'épisode de sa sœur, à qui elle a interdit de se marier, avec
l'homme qu'elle aimait.
Divorcée. Et on restait sur une femme assez rigide. Et maintenant, au fil des confidences, on apprend que... elle a quand même joué un rôle au moment du Covid, elle jouait un rôle au moment avec l'Irlande, la paix. On s'aperçoit qu'elle a quand même, tout au long de sa vie quand même, distillé des petites phrases et que les gens sont chacun reconnaissants pour des tas de petites choses qu'elle a faites. C'était pas que de la représentation, c'était pas que les belles robes qu'on voit partout et une constance et une immanence. C'était aussi quelqu'un... Qui, comme une grand-mère, mais comme un chef de famille, à temps en temps donnait la direction. Et on s'aperçoit que c'était quand même assez fréquent. Et ça en dit peut-être long sur ce que va faire le roi Charles III.
Et les Zapalski, là, on est fasciné par l'organisation absolument incroyable de ces obsèques, du rituel, de la procession et de ce qui va suivre dans les prochains jours. C'est une immense opération de communication ou pas ?
Oui, c'est une opération de communication, mais c'est logique. Et puis c'est le temps aussi de deuil, de recueillement qu'elle doit quelque part. La mort doit ça à son peuple. Je pense qu'ils ont besoin de ça. Ça m'a fait penser à Bob Kennedy, Robert Kennedy, le frère de Kennedy, JFK. Il y avait eu tout ce recueillement de son corps qui avait été transporté de New York à Washington à la suite de son assassinat en juin 68. Et il y a un photographe qui avait pris en photo tous les gens qui se recueillaient. Il y a besoin de ce temps-là. C'est vrai qu'on n'est pas tellement dans les rituels autour de la mort en France ou ailleurs, en Occident, mais il y a besoin de ce temps-là. Et évidemment, c'est l'occasion de redire ce que c'est la monarchie, de ce que c'est le rôle du roi ou de la reine. Moi, je trouve que c'est très intéressant justement qu'elle arrive à, vous l'avez dit presque, c'est du liant. Elle a réussi à faire du liant, elle soude un peuple, elle a soudé un peuple comme probablement va le faire Charles III, quel que soit le style qu'il a, colérique ou pas, parce qu'on l'a vu déjà
un petit peu... Oui, on l'a vu bien s'énerver hier. Voilà,
elle a l'air d'avoir du caractère.
Voilà, pas forcément le même style, mais en tout cas... C'est une fonction qui va souder. Et moi, je me disais, alors moi, je suis pas du tout royaliste, mais je me disais, c'est étonnant parce que nous, en France, on a toujours envie d'avoir une personnalité comme ça, providentielle, qui arrive. À chaque présidentielle, c'est ça. Ah oui, c'est Macron. Ah oui, c'est Mélenchon. Et puis finalement, on finit par le détruire, le critiquer parce qu'il prend les décisions au quotidien. Et quelque part, le roi ou la reine est épargné de ça, puisque, comme vous l'avez dit, Guylaine, c'est des décisions, mais un peu de loin, en recul, ou pas forcément visibles de tous. Du coup, ils sont épargnés de cette espèce de amour-haine qu'on a avec un dirigeant en France qui est sous nos yeux et on a envie de lui taper dessus quand il prend des décisions qui ne nous conviennent pas forcément. Et je trouve que c'est assez intéressant. Après, il y a ce temps de mémoire. Je trouve que c'est assez beau et c'est assez chouette qu'il y ait ce temps de rite autour de la mort de la reine.
Amine El-Khatmi.
Oui, on est un peu hypnotisé. On utilisait ce mot hier et moi-même, qui essaie de prendre un peu de recul ces derniers jours, je me suis surpris tout à l'heure à passer plus de 45 minutes à regarder ce cercueil et cet apparat et cette famille marchant au pas et en cadence et tous ces militaires et toutes ces belles tenues.
et à se dire un peu trivialement, bah, ça a quand même de la gueule, quoi. Ça ressemble à quelque chose. Mmh. Et puis l'émotion chez tous ces gens qui n'avaient pas encore vu physiquement. Évidemment, on sait que la reine est morte depuis jeudi, mais là, les gens voient le cercueil sous leurs yeux défiler à quelques mètres d'eux. Donc, il y avait un côté, c'est vrai, assez émouvant. Quant à l'opération de communication, vous avez raison. Tout à l'heure, quelqu'un sur CNews parlait d'immenses opérations de soft power et les autorités anglaises auraient tort de s'en priver. Je lisais dans un quotidien du soir qu'il y aurait 4 milliards de téléspectateurs lundi pour la dernière cérémonie officielle. C'est absolument incroyable. Le dernier record, disait le même article, c'était un peu plus de 2 milliards pour une finale de Coupe du Monde. Donc c'est absolument considérable. Et évidemment que les autorités anglaises et la famille royale auront raison à cette occasion, réunissant le président des États-Unis et l'empereur du Japon, de montrer...
Le président des États-Unis sans suite.
Oui, qui va venir tout seul, comme un grand. Oui. On fait une toute petite pause, on reprend ce débat dans un instant dans Punchline sur Europe 1. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
19h30, on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Guylaine Ottenheimer de Challenge, Amine El-Khatni, Émilie Zapalski. On évoquait cette monarchie britannique qui n'a de cesse de nous étonner parce qu'on découvre beaucoup de choses, évidemment, dans le fonctionnement de la royauté. Et puis, on compare, on ne cesse de comparer les mérites de cette monarchie et de cette monarchie parlementaire. Et nous, ce qu'on a, est-ce qu'il faut, il faut vraiment regarder du côté du Royaume-Uni ou pas, Émilie Zapalski?
Ah, je pense que nous, on a quand même notre système parlementaire. Et puis là, on a vu, les Français en ont remis une couche pour dire... On a besoin de ce système parlementaire, on a besoin que ça dialogue et que ça discute au niveau du Parlement. Donc je pense que le message, il est quand même assez clair et qu'on n'arriverait pas évidemment à aller là-dedans. Ça a des atouts, mais c'est spécifique au Royaume-Uni et on voit bien que ça va perdurer. Encore une fois, Charles III, on va voir quel style il va imprimer. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi dans la façon dont on dit au revoir à cette femme, c'est aussi tout ce qu'elle a vécu. Et je pense que c'est pareil quand des personnalités comme Gorbatchev, quand on voit partir des gens qui ont vécu tout notre monde. Ma fille, par exemple, m'a dit juste quelque chose que j'ai trouvé étonnant. Elle m'a dit, tu te rends compte, la reine, elle a vécu la guerre et le Covid. C'est comme si on imaginait à travers cette femme tout ce qui a été traversé de guerre, d'événements politiques, d'événements économiques. Et ça, ça marque évidemment parce que c'est quelque part une part de notre histoire qui part avec elle. Donc, est à inventer maintenant la suite. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Charles III imprime peut-être, au-delà de son style de roi, ses idées. Parce qu'on sait qu'il est... peut-être un peu plus social, un peu plus écolo aussi. Est-ce qu'il peut arriver à insuffler ça dans la stratégie de la nouvelle Premier ministre qui arrive, dans une situation économique quand même qui est pas facile pour la Grande-Bretagne? C'est tout ça qui va être intéressant, de voir comment ils arrivent à rassembler tous ces morceaux qui sont compliqués après le Brexit. C'est pas impossible, mais c'est une phase qui est quand même assez difficile.
Guylaine Ottenheimer.
Oui, on a tous envie de faire la comparaison monarchie parlementaire ou république monarchique. Quels sont les cocher les
avantages,
cas,
inconvénients,
c'est moins bien. Bon, alors il y a ceux qui vous disent que la monarchie coûte très cher. En fait, c'est 1,4 euros par personne par an et ça rapporte énormément de devises en goodies, etc. Donc c'est pas la question de l'argent. Toute façon, en France, c'est impossible parce qu'on a eu plusieurs révolutions. Le général de Gaulle a essayé de remettre le comte de Paris sur le trône, mais bon, c'était difficile, c'était vraiment très compliqué. Pas seulement par la valeur de l'homme, mais par la façon dont les Français auraient reçu la chose. Non, ce que je pense en France, je suis d'accord, il faut que le Parlement vive. Et il faut surtout une incarnation qui ne soit pas clivée. C'est-à-dire qu'en Allemagne, en Italie, en Israël, il y a un président de la République, mais qui est garant de tout. Alors certes, il est élu, il fait partie d'une majorité ou pas, mais après, les choses s'estompent parce qu'il ne prend pas de décision à tous les jours. Il est là pour la représentation, il est là pour mettre du lien. Et je pense que nous, notre erreur, à force, le général de Gaulle, à force de voulu faire une monarchie, il a oublié l'équilibre des pouvoirs. Et du coup, on a mis tout sur le monarque qui doit avoir des pouvoirs et des pouvoirs et des pouvoirs. Oui, mais ça respire pas. Il faut un chef parlementaire qui est issu d'une majorité au Parlement, qui gouverne, comme Elisabeth Borne le fait, mais qui soit issu du Parlement et pas nommé par le président de la République. Et puis un président de la République qui incarne, qui a un certain nombre de pouvoirs, mais qui influence, qui dure plus longtemps que les autres, quand donc ça donne du lien. 70 ans, la reine d'Angleterre, moi je regardais les photos, je me dis, mais ça fait 70 ans qu'elle porte les mêmes robes, les mêmes chapeaux, le même sac, qu'elle reçoit les premiers ministres à la même heure, dans le même bureau, avec le même décor. Eh bien, c'est reposant pour les gens à une époque où tout change, les marques, les noms des entreprises, les chaînes de télévision, tout change tout le temps. Il y a quelqu'un qui est tout le temps pareil. C'est comme un vieux grenier d'une maison de famille. C'est très reposant.
Amine El-Khatmi,
j'aime bien
sur cette vision voilà, charmante du grenier de famille, c'est de la malle que l'on ouvre.
Guylaine a dit à peu près ce que je voulais dire et moi je suis, je regarde pas ça avec, comment dire, pas jalousie, mais je trouve ça beau, je trouve que effectivement ils ont, c'est ce que je crois Charles Consigny disait tout à l'heure, ou Geoffroy Lejeune, il y a ce commun qui fait que les Anglais, quelles que soient leurs divergences, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient, ils se retrouvent autour de la famille. Alors la famille que parfois on chahute parce qu'on trouve qu'elle se comporte mal, et puis cette reine qui met 6 jours à parler de la mort de Diana, ben on trouve qu'elle a mis trop de temps, et puis parfois il y en a d'autres qui râlent parce qu'ils se disent que tout ça coûte un peu cher. Bon, mais à la fin des fins quand même, il y a ce côté rassurant, cette valeur sûre, cette permanence qui fait qu'on arrive à se retrouver. Et c'est vrai que chez nous, ben il y a pas ça. Peut-être le seul qui arrive un peu à incarner cette fonction, c'est le président en période de cohabitation.
C'est ça.
Parce qu'il redevient populaire, ce qu'il devrait être un président.
Souvenez-vous, le malheureux Jacques Chirac, paix à son âme, qui était descendu dans les bas-fonds des sondages. Le jour où il quitte le pouvoir, il gagne 20 points de popularité. Et le président qui est en période de cohabitation, le Chirac avec Jospin, le Mitterrand avec Juppé et des autres exemples, eh bien, il devient la figure rassurante. Il devient le président qu'on aime parce qu'il est au Stade de France le 12 juillet 98 et il soulève la Coupe du Monde et il ne gouverne plus, ou alors il s'occupe des affaires militaires et de la diplomatie, mais d'une certaine manière, il ne gère plus les affaires des Français au quotidien. Ben, effectivement, cette figure-là, elle manque.
Bon, voilà. Voilà pour ce qu'on voulait dire.
Moi, j'ai l'impression qu'on est, on est un peuple, peut-être en France, qui se rassemble plus par rapport à des événements. Je prendrais un qui est souvent, c'est les plus dramatiques, mis à part le foot. Le foot se rassemble. Mais c'est aussi dans les moments de terrorisme, d'attentats, où là, on a refait peuple, on a refait nation très fortement. Mais c'est souvent dans ces cas-là plutôt négatif et moins derrière une figure. On a du mal parce que à chaque fois, comme disait Guylaine, c'est des gens qui sont clivants plutôt. Donc on va suivre. Il y aura des pour et des contre. Et on aime bien ça en France. Il y a ce côté, je veux me mettre d'un côté ou de l'autre, je veux pouvoir critiquer. Donc je suis pas sûre qu'on arrive, on puisse jamais avoir cette personnalité sereine.
Moi, je crois que les Français le souhaitent.
Oui, il faut trouver la personnalité.
Le monde, d'ailleurs. Mm-hmm. Souvenez-vous de la mort de Chirac. Je crois que ça a dépassé la famille de la droite du RPR.
Simone Veil.
Voilà. Il y a des personnalités comme ça. Parce que, comme vous dites, à un moment... Ces personnes n'ont pas de pouvoir, mais quelquefois, sur un certain nombre de sujets, c'est elle qui signe en dernier ressort, comme la reine signe en dernier ressort. Alors, elle ne va pas refuser ce que veut un gouvernement issu du Parlement qui a la majorité. Mais ils peuvent discuter, avoir des conditions, en disant là, bon, bah, sur la fin de vie, quand même, vous êtes allé un peu trop loin, sur le mariage pour tous, je trouve que le pays n'est pas... Bon, c'est un poids. Et je pense que cette espèce de rouage un peu moins clivé, un peu plus rassembleur, manque dans notre pays.
Un tout petit mot de la situation. Alors, on passe carrément à autre chose en Suède, parce qu'on a le résultat qui vient de tomber à l'instant des élections en Suède. Et la première ministre reconnaît la victoire du bloc droite-extrême droite. Elle démissionne. C'était un résultat attendu. C'est l'union de la droite nationaliste qui l'emporte dans ce pays qui a été dirigé par la gauche pendant des années, Amine El-Khatmi.
Mais moi, ce qui m'intéresse, au-delà du constat que vous faites et qui est factuel, c'est qu'est-ce qui a provoqué ça? Ce qui a provoqué ça, c'est un afflux d'immigration incontrôlé, des portes du pays qui ont été ouvertes massivement aux migrants qui ont, venant de la gauche, j'assume parfaitement ce lien, qui ont fait exploser la délinquance et l'insécurité. Nous sommes passés de l'un des pays les moins criminogènes d'Europe à l'un des pays où il y a le plus d'homicides par arme à feu en Europe, et le lien a été établi entre cette situation et l'arrivée massive et incontrôlée des migrants. Alors moi, je ne suis pas un partisan de l'immigration zéro. Je trouve que c'est un slogan stupide qui est complètement, en plus, par ailleurs, inapplicable. Mais si, à un moment donné, on continue à avoir une gauche, et là, pardon de faire le parallèle avec la gauche française, qui traite de fasciste ou de nazi, tous ceux qui osent parler de sécurité, de contrôle de l'immigration, de questions régaliennes, en expliquant que la gauche ne doit parler que d'écologie et de social et se vautrer dans des polémiques ridicules comme elle a le don de le faire en ce moment, eh bien, à la fin, l'extrême droite, elle monte et elle finit par gagner les élections.
Dylan Ottenheimer.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ce pays... qu'on a eu en modèle pendant des décennies en disant que ce soit sur la gestion, sur la gestion des prisons, sur la gestion des écoles, sur la redistribution sociale, sur l'acceptation de l'impôt.
Les droits des femmes, l'égalité
hommes-femmes. Ils ont un niveau d'impôt très élevé, mais c'est accepté parce qu'il y a une redistribution. Enfin, vraiment, pour les Français, c'était un modèle, et comme vous l'avez très bien expliqué, qui a explosé. Mais on s'aperçoit que même dans un pays comme la Suède, finalement, eh ben, l'espèce d'interdit qui était que les droites extrêmes et les droites républicaines ne peuvent pas se rejoindre, eh bien, elles se rejoignent. Donc, ça en dit long sur, effectivement, ce qui pourrait arriver en France s'il n'y a pas de relève au centre.
De sursaut.
Oui, c'est la tentation de l'extrême droite. Et puis, alors, oui, il y a des questions sur l'immigration ou quoi, mais c'est aussi trouver un coupable et hop, se reporter sur l'extrême droite pour trouver une solution. On n'est pas loin de ça en France. Hein. On y a échappé avec Éric Zemmour, qui a fait beaucoup parler de lui quand il n'était pas candidat, et puis il s'est écroulé dès qu'il était candidat, parce que sur les questions économiques, sociales, il n'était pas du tout à la page. Il y a cette tentation d'aller vers des personnalités comme ça qui n'ont jamais gouverné, ou très peu, parce qu'en Europe, c'est vrai que ça commence, mais c'est quand même plus rare. Donc, on se dit, pourquoi pas essayer. Moi, j'ai pas l'impression que ça prenne totalement en France, parce que on a d'autres questions. C'est vrai que sur la partie énergétique, la Suède, elle était plus en avance, hein, puisque la transition écologique, elle l'a fait avec beaucoup d'années d'avance. On a des questions à régler avant d'aborder ou de réaborder ces questions de sécurité et d'immigration, il me semble, même si c'est des questions qu'il faut traiter. Je pense que c'est pas forcément là où place l'urgence, pour l'instant, les Français.
Et on a un système majoritaire de tours qui est plus compliqué.
Qui permet d'évacuer un petit peu l'extrême droite.
Allez, on fait une petite pause. On va parler de la crise énergétique dans notre pays, avec cette hausse de 15% du prix du gaz et de l'électricité au 1er janvier 2023. À tout de suite sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
19h45 en direct sur Europe 1 dans Punchline avec Guylaine Ottenheimer, Amine El-Khatmi et Mélisa Palski. On va écouter Elisabeth Borne. Elle a fait une conférence de presse cet après-midi pour annoncer que le bouclier tarifaire allait changer au 1er janvier 2023. Une hausse de 15% du prix du gaz et de l'électricité, c'est considérable. En compensation, il y aura des chèques énergie de 100 à 200 euros qui seront versés selon les revenus à 12 millions de revenus. Et elle a encore une fois appelé à la sobriété qui évitera les coupures. On l'écoute, cette Première ministre.
Dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure. Nous n'aurions alors pas besoin d'activer le dispositif de rationnement pour les entreprises qui consomment beaucoup de gaz. Le second enseignement, c'est que seule la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les cas de figure les plus pessimistes, comme un hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d'approvisionnement.
Pour le message sobre sur la sobriété d'Elisabeth Borne.
Depuis le début, je trouve que c'est des moyens quand même assez limités, la sobriété. On comprend, et pourquoi pas, c'est le moment d'urgence. On a des questions quand même sur le nucléaire qui ne sont pas réglées du tout et qui ne seront probablement pas réglées malgré tout ce qui est dit d'ici la fin de l'année sur les centrales qui ne fonctionnent pas, qui doivent être mises en fonctionnement. Je trouve que c'est un peu pauvre d'être là-dessus. Et moi, je me faisais la remarque, c'est vraiment la même communication, la même organisation et la même méthode que pour le Covid. On a les conférences de presse régulière avec un conseil de défense. On a Macron qui fait peur au début, le conseil de défense de l'énergie qui nous dit non, finalement ça va tenir. Et puis là, on a toute la partie détail pédagogique avec le Premier ministre, la Première ministre et puis après le ministre de l'économie et Agnès Pannier-Runacher pour la déclinaison sur la partie énergie. Je trouve ça assez maigre et on a bien l'impression que au-delà de la partie sobriété, on est surtout sur une distribution de chèques, on est encore sur le quoi qu'il en coûte, malgré ce que dit le ministre de l'économie. On a une accoutumance. Après, la responsabilité, elle est aussi sociale, de la société. On s'est accoutumé complètement.
On ne pourra pas arrêter. Depuis le début, je dis qu'on ne pourra pas arrêter.
Il y a un problème. L'État vient m'aider, que je sois entreprise, particulier, indépendant, salarié. Et ça va continuer indéfiniment. Sauf qu'il y a un moment où ça pèse donc quelque part sur les ménages au bout du bout du bout, ou en tout cas il va falloir trouver de l'argent. Moi je pense qu'il y a un problème de financement, soit il va falloir poser la question des salaires et trouver une façon d'augmenter les salaires pour pas que ça repose que sur l'État, soit il va falloir continuer à faire les poches des entreprises. On a commencé sur les énergéticiens, sur les énergéticiens, on essaie de le faire au niveau européen.
Est-ce qu'on élargit pas sur les super profits?
Est-ce qu'on élargit pas? On voit bien que le gouvernement ne veut pas prononcer ce mot de taxe ni de super profit, taxer les super profits, mais on voit bien que quelque part il va falloir trouver de l'argent. Il a redit, Bruno Le Maire, qu'il y avait cette exigence de déficit 5% en 2023, moins 3% par la suite à la fin du quinquennat. Je ne vois pas comment on va trouver. C'est pas les retraites, parce que là, la réforme des retraites est relancée pour trouver de l'argent frais. Je ne suis pas sûre que ça passe, parce qu'en plus, les Français n'en veulent pas.
Guylaine Ottenheimer.
Oui, c'est un peu une politique au fil de l'eau qui contredit ce qu'avait dit Bruno Le Maire à la rentrée en disant que ça y est, maintenant, il fallait être sérieux et qu'on avait atteint le maximum du maximum des déficits et de la dette. Et là, on est reparti pour un tour. Et puis, je trouve qu'il manque de l'humain dans cette façon de voir les choses. Je prends un exemple. Prenez une copropriété, un immeuble. Les gens décident en assemblée générale de baisser la température parce que souvent, c'est des chauffages communs. Et ils disent, on va faire des économies, on met le chauffage à 18,5 ou 19. Bah, supposez que dans l'immeuble, il y a une personne très âgée, un enfant handicapé. Je ne sais pas, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre à 18-19 parce que voilà, il y a des métabolismes. Comment on va faire? Voilà, donc vous voulez, il va y avoir beaucoup de drames, choses très difficiles à traverser. Et je trouve que moi, elle a pas parlé aux gens en disant bon, voilà, faut vous mettre d'accord entre vous, il va falloir qu'il y ait de la solidarité, il va falloir s'organiser. Et voilà, je trouve que c'était vraiment le, comme vous le disiez, un peu comme le Covid, vous inquiétez pas, on s'occupe de rien, alors il y aura un chèque. C'est pas parce qu'on donne un chèque de 100 euros qu'il y aura pas de problème pour les gens. Et puis c'est plus compliqué que ça.
C'est comme le Covid, hein, on met la responsabilité sur les gens en disant bah, si vous faites pas ça, hein, attention, hein,
ça sera de votre faute. Ça sera de votre faute, il y a des coupures.
Je suis moins inquiète que vous, parce que je pense que sur le nucléaire, non seulement les normes, mais les outils pour analyser les réacteurs se sont beaucoup sophistiqués. Et c'est-à-dire qu'il y a des imperfections qui ne seraient pas apparues il y a 20 ou 30 ans, qui aujourd'hui sont mieux détectées.
Il vaut peut-être mieux aussi.
Oui, mais c'est très bien. Mais ça veut dire que ce n'est pas forcément des pannes ou des défauts qui sont très, très compliqués à régler. Et je pense que si on met de l'argent et si on motive un peu les ingénieurs, je pense qu'on arrivera à remonter notre participation du nucléaire dans le mix énergétique.
Mais les appels ensuite à mes.
Sur ce point, c'est que par rapport aux centrales qui doivent être remises en circulation, en fonctionnement, il y en a d'autres qui sont programmées pour être justement stoppées. Arrêtez, c'est simplement ça, cette espèce de roulement qui risque de toute façon de nous amener à un manque d'électricité.
On peut le repousser de deux mois.
Ça sera plus facile si on en a plus qu'une trentaine qui
fonctionne. Aminel Katmi, sur ces annonces de la Première ministre.
Oui, ce qui surprend, non, ne surprend même plus d'ailleurs à ce stade, c'est la politique du chéquier qu'on sort comme... comment sortirait une lance à incendie pour éteindre le feu, quoi. Et puis, en plus, il y a une forme de d'irrespect à l'égard des Français, c'est-à-dire bon, on va leur donner du fric et puis ça ira bien, quoi. Ça va les calmer, ça calmera. Mais c'est ce que disait Guylaine, elle le disait très bien. Les gens n'ont pas besoin que d'argent, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de politiques structurelles, ils ont besoin de choix qui soient faits en amont, qui soient des choix qui engagent la nation, et pas simplement comme ça arriver au pied du mur, acculé, craignant la contestation ou l'explosion sociale, en se disant allez, on sort le chéquier, puis ça ira bien. Alors là, demain ou après-demain, on va verser la prime de 100 euros. La prime exceptionnelle qui doit être versée le 15 ou le 16 septembre. Et puis, il y aura ce chèque énergie. Et on fonctionne comme ça. Au lieu de prendre des décisions stratégiques qui engagent l'avenir du pays, on fonctionne par petits coups, par à-coups, par... C'est assez désolant.
Émilie.
Oui, je pense que c'est vraiment un gouvernement qui est très fort. C'est un gestionnaire. C'est pas un visionnaire. C'est un gestionnaire. On gère la France comme on gère une entreprise. Donc on regarde le budget. Ah, il y a un problème. Bah, on va couper ça. Oh zut, c'est les urgences qu'on a coupées. Il y a une crise Covid qui arrive. On rectifie le tir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir couper? On est vraiment dans une gestion et pas dans une vision. Moi, c'est ça qui m'a gênée dans la sobriété. D'ailleurs, plusieurs fois, la question a été posée par des journalistes sur. Mais est-ce que on pense à la rénovation des bâtiments parce qu'il y a des passoires thermiques et ça ça, bah là, il y a beaucoup d'argent qui part et beaucoup d'électricité qui part, non, rien du tout, quoi, dans la nature. Et la réponse, c'était toujours de dire, mais non, mais là, on est sur l'urgence, on est juste sur des mesures de sobriété, de bons réflexes. Tout ça, on verra après. Mais non, je pense qu'un gouvernement, en tout cas, c'est ce qu'on attend, il doit pouvoir réfléchir à deux choses en même temps. C'est d'ailleurs ce que fait Macron, parce qu'il lance plein de projets, on sait même pas à quoi ça sert, d'ailleurs, le Conseil national de la Fondation. Mais l'idée, c'est de se dire, on planche sur la sobriété, des bons réflexes, parce qu'on a une mesure d'urgence, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on trace pour cette transition écologique qu'on a du mal à faire, planification écologique, on sait pas ce qui se passe, on sait pas très bien comment ça va s'organiser, mais qui nous donne des éléments là-dessus. Et juste un dernier point, je pense qu'il y a des manques, hein, il y a des trous dans la raquette, dans cette bonne gestion de crise d'échiquier. Les entreprises, mis à part les petites, elles sont pas aidées et ça va créer des gros problèmes. Il y en a déjà qui vont devoir arrêter certaines productions. Et les collectivités, parce qu'à part les petites communes, elles sont pas aidées. Et les collectivités parfois aident les entreprises et pour l'instant, je pense qu'elles elles sont complètement exsangues. Elles n'ont même pas proposé un fonds ni rien du tout comme elles ont fait pour la crise.
Alors, Guylaine, il peut y avoir des problèmes en cascade parce que si vous prenez 15% d'augmentation pour l'électricité, vous prenez aussi l'augmentation des crédits. Vous vous dites que, par exemple, des gens qui sont en train aujourd'hui de travailler sur la construction d'un immeuble, d'un quartier, etc., ils ont plein de promesses d'achat, puis tout d'un coup, tout ça peut tomber. Exact. Ensuite, comme vous le disiez, il faut un peu un cadre général, parce que 100 euros si vous habitez dans le Jura ou si vous habitez à Nice, c'est pas la même chose. 100 euros si vous habitez dans un HLM qui est une passoire thermique, on a toujours mis de l'électricité pas chère, donc on s'en est foutu, on a mis des grille-pains. Et si vous habitez dans un nouveau écoquartier à Grenoble qui est très bien isolé, bon, on n'est pas du tout dans la même truc. Donc je pense qu'encore une fois, on est trop centralisé. Je pense que c'est au niveau des mairies, local, des quartiers qu'on devrait aider les personnes qui sont vraiment en grande difficulté. Alors évidemment, il y a des gens qui ne vont pas chercher les aides sociales. Il faut quand même leur donner quelque chose. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont le droit à ça, qui ne vont pas le chercher. Mais je pense que.
Là, ça arrive directement sur les comptes chèques.
Voilà, c'est
là,
ça. Mais c'est trop centralisé.
Un petit mot à Amélie pour la fin.
On se demande parfois quelles leçons ont été tirées du Covid. Là, manifestement, la leçon n'a pas été retenue. Vous vous souvenez des débats que nous avions sur les plateaux, sur le fait de dire, par exemple, les mairies ont des CCAS, les centres communaux d'action sociale, qui ont des fichiers des personnes âgées et qui donc peuvent savoir qui aller. Et donc, c'est mieux que ce soit les mairies qui le fassent plutôt que l'État. On voit que c'est une des leçons qui n'a pas été tirée de cette époque.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir balayé l'actualité ce soir dans Punchline en direct sur Europe 1. Merci Émilie Zapalski, merci Guylaine Ottenheimer, merci Amine Camille. On n'a rien oublié comme sujet, ça va ?
C'est bon.
Bon, super. Alors, dans un instant, on va parler de sport avec Virginie Fulpin, ce sera Europe 1 Sport. La Ligue des Champions, bien sûr, le match PSG qui est en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. Avec sur la pelouse, écoutez bien, Neymar, Messi et Mbappé, excusez du peu. Voilà, à suivre en direct sur Europe 1. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain à 18h pour Punchline, pour revivre les grands moments de ce qui se passe en Grande-Bretagne. J'imagine qu'on va évidemment revenir sur cette procession des Britanniques qui viennent se recueillir devant le cercueil de leur reine qui se trouve en ce moment Westminster Hall, dans le centre de Londres. Il y a des heures et des heures de queue pour aller voir la reine. Allez, bonne soirée sur Europe 1, à demain.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.